Bonjour et bienvenue au troisième épisode de Discussion Techno entre Geeks. Aujourd'hui, l'épisode complet sera dédié à la plateforme d'automatisation de domotique Home Assistant. Bonne écoute! Home Assist quoi? Salut François.
Salut Eric.
On fait un troisième épisode exclusivement sur Home Assistant. On a-tu quelque chose à dire?
Mais ma blonde va dire trop. ces temps-ci, j'ai aucun autre sujet de discussion. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand c'est cool, c'est cool.
Puis c'est quoi Home Assistant?
Donc Home Assistant, en réalité, c'est une plateforme open source. Puis il y a des points d'intégration dans presque tout ce que tu peux t'imaginer. Justement, à ce moment, si on va sur leur site web, ils sont à 1540 intégrations. Donc ça peut aller de HomeKit, Samsung SmartThings, Alexa, Ecobee. Je veux dire, tu le dis, il y en a.
Oui, tout est là.
Oui, exactement. Puis ce que j'aime beaucoup de cette plateforme-là, c'est que ça rend ça un petit peu comme une expérience unifiée. Donc, ça ramène toutes les différentes technologies, puis tu peux interagir avec à travers une interface. Donc, à place d'avoir, mettons, une application pour ton Google, une application pour tes Wisecam, des appareils IKEA.
Ouais, ou des Sonos.
Oui, exactement. Tu es capable de tout gérer ça dans une belle interface unifiée que c'est toi qui décides comment que tu vas le
personnaliser à ton goût. Là.
Oui, exactement. Donc, ça fait quand même, je dirais, un bon mois, pas tout à fait un mois que j'ai commencé à explorer ça. Ça fait plusieurs années, je connaissais un peu la plateforme, mais on dirait dans la dernière année, ça a monté énormément de popularité.
Mm-hmm.
Puis moi, ça fait quand même beaucoup d'années que j'ai toujours été intéressé par la domotique. Mais avec tout ce qui se passe ces temps-ci, il y a des nouveaux appareils, des nouveaux standards. C'était dur à choisir, c'est quelle plateforme que tu devrais aller avec. Donc, moi, j'ai commencé il y a plusieurs années avec le X10. Puis après ça, je me suis introduit à Insteon parce qu'Insteon avait leur propre technologie et il y avait aussi le X10. Donc, je ne recommençais pas à zéro. Mais là, les dernières années, j'attends pas mal voir quand le marché va stabiliser. Puis justement, j'ai vu Home Assistant. Puis avec ça, ce qui est intéressant, comme je dis, c'est que c'est capable de jumeler tous ces points d'intégration-là, mais avoir une expérience unifiée. Donc, pour ma famille, ils n'ont pas besoin d'aller « Ah, je vais allumer la lumière dans le salon, bon, il faut que je passe par-ci. Je vais aller modifier le chauffage dans le sous-sol, mais je peux aller par là. » Donc, ça m'a revigoré mon attrait vers justement la domotique. Donc, en gros, c'est une plateforme open source. Donc, c'est plein de développeurs. Mettons quelqu'un qui mettons des synopés, un peu comme nous autres, on utilise ces temps-ci pour le chauffage de la maison. Mais il y a un développeur qui a décidé de je vais utiliser les API de Synopé, puis il y a un point d'intégration. Donc maintenant, on est capable justement de gérer nos thermostats avec Home Assistant.
Oui, effectivement.
C'est sûr que ce n'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Faut être un petit peu un côté geek techno parce qu'il y a quand même beaucoup de lectures à faire.
Il y a du bidouillage.
Oui,
mais
effectivement.
De ce que j'en ai lu et vu, la plateforme s'est beaucoup améliorée. Ils sont rendus à version 104.1, je pense, quelque chose comme ça. De version en version, c'est beaucoup plus facile à gérer pour un néophyte.
Oui, puis je me souviens plus c'était dans quelle version, parce que là, de toute façon, ils sont en 1.04. Je vous fais une petite corrective. Mais ça fait quelques versions, ils ont décidé de faire leur propre OS que tu peux installer sur un Raspberry Pi.
Asayo,
c'est ça? Asayo, exactement. Donc, on revient un petit peu à nos projets de Raspberry Pi. Et ce que je trouve très intéressant avec Asayo, c'est que ça fait tout. Donc, tu n'as même pas besoin d'installer Raspbian. C'est vraiment le OS qu'eux autres, ils ont vraiment fait customize à leurs besoins. Et il y a aussi l'habileté, si tu veux, de rouler des containers de Docker. Donc, s'il y a d'autres points d'intégration que tu veux mettre, un peu comme un broker MQTT, qu'on en discutera un petit peu plus tantôt, mais tu es capable de rouler un container Docker de MQTT. C'est sûr que ça reste un Raspberry Pi, donc tu ne veux pas aller trop fou avec tous tes plugins.
Oui, ouais, t'es restreint quand même en performance.
Oui, exactement. Puis moi, dans ma vue à moi, c'est pour la domotique, donc je n'installerai pas un serveur Plex en même temps.
Oui, parce que j'ai vu justement que tu peux intégrer beaucoup de trucs, dont un serveur Plex. Tu peux mettre Pi-hole dedans, tu peux mettre...
Oui.
Puis tout ça va travailler ensemble aussi, puis...
Oui, puis justement, mettons Plex, on va utiliser Plex comme exemple. Moi, j'ai créé un point d'intégration. Donc, ce n'est pas Plex qui roule dans le HassIO, c'est Plex qui roule dans un autre container que j'ai ailleurs, mais il est capable d'interroger puis savoir, mettons, c'est quoi j'écoute, c'est quoi sur ma playlist, c'est quoi le Up Next, des affaires comme ça. Puis toi, une des choses que j'aimerais beaucoup faire, puis comme je vous dis, il y a des points d'intégration, c'est malade. Il y a même un point où ce que moi, j'ai certains appareils réseautiques, puis donc il y en a plusieurs qui fonctionnent avec. Fait que je peux savoir à travers mon Home Assistant si quelqu'un est à ma maison.
Mm-hmm.
Puis une des choses que je veux faire, mettons, si on a de la visite qui vient de coucher chez nous ou quoi que ce soit, mais le sous-sol va le savoir que c'est ces gens-là qu'on a déterminés, puis ça va mettre la température qu'eux autres aiment. Puis quand on a d'autres visiteurs, mais ça peut mettre une température différente selon leur... ce que les autres préfèrent, en réalité.
Oui, parce que tu vas pouvoir savoir, même avec l'appareil, comme on disait, la presence detection.
Oui.
Il est connecté, donc, OK, on ajuste en fonction de ce paramètre.
Oui, exactement. Puis le presence, tu peux aller chercher de plein de différents endroits.
Mm-hmm.
Donc, moi, à la maison, j'utilise aussi mon Google. Donc, mon Pixel, ici, quand je suis chez nous, basé sur le GPS. Donc, je pourrais le faire, mettons, s'il détecte que je ne suis pas à la maison, mais quand quelqu'un ouvre la porte, je reçois une alarme.
Ouais.
J'ai aussi intégré mes Wyze Cam. Puis ce qui est super le fun avec ça, c'est que les Wyze sont très ouverts aussi à ces besoins-là. Puis ils ont mis un nouveau firmware qui te permet de loguer tout ton vidéo local. Donc, tu n'es pas obligé d'envoyer quoi que ce soit dans le cloud. Ça, c'est un autre point qui m'intéressait beaucoup avec Home Assistant, c'est l'habileté de commencer à rouler tout local et plus être dépendant dans le cloud.
Effectivement, c'est un gros plus. Juste faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin sur ça roule sur quoi? On sait que ça roule sur un Raspberry Pi, ça roule sur un Docker, HassIO qui est son OS propre. Ben, je vais dire propriétaire, mais ça.
Oui, que tu installerais dans une VM ou si c'était conçu spécifiquement pour le Raspberry Pi, mais effectivement, tu pourrais le rouler dans une VM aussi.
C'est mon cas. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je le roule en VM. Ma première tentative était dans un Docker. Maintenant, je le roule dans une VM.
Oui, puis c'est ce que je m'en vais vers aussi. Puis après ça, quand je vais vraiment vouloir que ça gère ma maison, mais là, je pense que c'est là que je vais le mettre vraiment sur un Raspberry Pi qui va être sur un UPS. Donc, ça ne prend pas un gros UPS. Je peux avoir un peu plus de contrôle à ce niveau-là.
Puis, à l'installation, c'est quand même assez, je vais dire, intelligent pour détecter beaucoup de choses sur ton propre réseau. Beaucoup d'appareils qui sont Wi-Fi vont dire, « Ah, OK, j'ai reconnu ton Wemo. J'ai reconnu ta lumière TP-Link. Tu veux-tu les installer ou tu skips puis tu le fais toi-même manuellement si tu veux? »
Et honnêtement, moi, avec les pratiques que j'ai faites, moi, je préférais toujours le manuel versus le automatique. Comme ça, tu peux mieux structurer tes affaires.
Effectivement. Tu parlais tantôt Presence Detection. Moi, je l'ai fait un peu au niveau de mon routeur et de mes nœuds. J'ai trois nœuds Linksys VLOOP à la maison. Donc, justement, il y a quelqu'un qui a codé quelque chose. Il y avait déjà un module de Presence Detection pour les routeurs DDWRT basé sur la connectivité Wi-Fi. Donc, si tel appareil est branché sur le réseau, ben, je détecte qui est là. Donc, le gars l'a adapté pour le VLOOP. Ça fonctionne bien, ça détecte, OK, bon, j'ai tel appareil. Là, il y a beaucoup d'intégration, pas d'intégration, mais beaucoup de personnalisation et de s'approprier un peu aussi pas le code de l'autre, mais l'ajuster à ses besoins.
Oui, oui, effectivement, parce que même l'interface, le mien peut paraître très, très, très différent du tien. Et tu vois, moi, justement, ça détecte le coucher du soleil, puis ça change l'interface pour que ça soit plus sombre.
Ouais, comme un dark mode, dans le fond.
Exactement.
Non, c'est vraiment bien. J'ai même commencé à regrouper tous mes trucs là-dedans versus ce qui me fatiguait beaucoup, moi, des autres. Des multiples technologies que j'avais, c'est que j'avais une application Tipeee-Link, j'avais une application Wemo, j'avais une application Synopé, j'avais plein d'applications pour plein de besoins différents, mais maintenant, j'ai l'application Home Assistant dans le but de réduire ma liste d'applications, toujours aller un point central pour tout contrôler. Puis, comme je t'avais dit un peu, je le répète, mais ça me fait beaucoup penser à Tasker, qu'on travaillait avec il y a une dizaine d'années pour personnaliser ou s'approprier davantage notre Android par rapport au sensor, parce que c'est beaucoup c'est de la lecture de sensor. Donc, OK, il fait de la température, l'écran est par en haut, par en bas. Mais Home Assistant va faire ça. Tout est un peu des sensors. Ton téléphone est un sensor de détection de présence. Tu peux y aller avec la température, avec l'altimètre que plusieurs téléphones ont aussi.
Pour savoir si tu montes ou descends des marches.
Effectivement. Fait que si j'arrive il détecte que je descends l'escalier, bon, je suis rendu dans le sous-sol, allume la lumière dans le sous-sol. Aussi bête que ça, mais on peut le pousser encore plus loin, là.
Oh oui, c'est vraiment une question d'idée.
Oh oui, définitivement.
Parce que tu pourrais le faire, si mon garçon, il est en train de jouer sa PS4, mais tu sais, le PS4, c'est un module qui détecte l'ampérage ou le courant qui tire, mais là, tu sais que mon garçon est en train de jouer, donc je pourrais ajuster le chauffage.
Mm-hmm. Oui, ou mettons, ta routine de bonne nuit va éteindre, si on veut, la lumière extérieure à 10 heures. Ben, ton enfant, si tous les appareils ne sont pas dans la maison, ben, il va laisser la lumière dehors allumée parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va nécessairement venir plus tard peut-être.
Oui, c'est vraiment c'est une question d'imagination à ce point-là.
C'est le même, quand j'ai fait mon installation en VM, je l'ai laissé détecter quand même. J'ai vu qu'il y avait un module pour les imprimantes Samsung. Ah, j'ai dit « why not? » Crime. En moins de deux, je pouvais voir le niveau de mes différents toners de couleur ou noir. Je pouvais voir si je manquais de papier ou pas, l'état de l'imprimante. Donc, même à ce niveau-là, je peux aller plus loin. Envoie-moi un courriel, mettons, pour me dire de commander de l'encre quand j'arrive à un certain niveau. Aussi bête que ça aussi, là.
Oui, et puis tu vois, j'ai même vu des add-ons que j'ai pas encore joué avec, mais d'Unraid. Fait qu'il y a vraiment des API d'Unraid, fait que tu pourrais voir le statut de tes shares, le CPU, puis même tu peux faire des sensors, c'est un script. Fait que si tu as un script qui fait, mettons, qui regarde l'espace 10 d'un système ou ton top, puis tu regardes le load de ton CPU, il est capable de tout garder l'historique de ça aussi. Puis dépendant de certaines activités, mais mettons si le CPU arrive à tel niveau, mais il envoie un courriel ou en tout cas, tu peux faire vraiment ce que tu veux.
Oui, puis toi, tu vas avoir une idée, moi je vais en avoir une autre, puis là on va se parler, puis on va faire comme OK, j'avais pas pensé à ça, on pourrait le faire comme ça à la place. Ou il y a l'infinité de possibilités est vraiment épatant.
Oui, puis la communauté est énorme.
Effectivement.
Il y a beaucoup de vidéos YouTube. Puis justement, c'est ce que j'ai appris en regardant les vidéos de YouTube. C'est juste les intégrations, ça a augmenté vraiment, vraiment beaucoup. Oui, surtout dans la dernière année, tu regardais, mettons, les git commits, puis tout ça, puis tu vois vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui ont fait des forks, puis ils ont modifié le code, puis après ça, ils ont demandé pour l'intégrer avec le code de base. Non, c'est une communauté très, 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 très mouvementée. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas vu de réponse à date sur ce que j'ai passé. Puis justement, j'ai un collègue qui m'a prêté un SmartThings de Samsung parce que je me suis acheté des thermostats qui pouvaient communiquer avec Zigbee. Puis je voulais jouer un petit peu avec Zigbee. Puis je regardais, il y a un module aussi pour faire Zigbee puis le transformer en MQTT. Excusez-moi. Puis, il y a du monde qui avait développé ça. Fait que dans le SmartThings, j'étais capable d'intégrer certaines affaires. Mais c'est sûr que je ne veux pas rester avec SmartThings parce que SmartThings, à date, il est 100% dépendant du cloud.
C'est un peu la version open source, si on veut, de SmartThings. Ça reste un peu comme un compétiteur à SmartThings, même oui. Si tu peux intégrer SmartThings dans Home Assistant.
Oui, absolument.
un truc que j'ai vu dernièrement que je trouvais très intéressant, c'est un gars a développé un module pour avoir des notifications vocales sur ton téléphone. Fait que ton système t'appellerait avec un text-to-speech pour t'aviser. C'est sûr que tu veux pas être notifié, tu veux pas être appelé à tout bout de champ, mais
non.
Pour un seuil critique d'un trigger XYZ, tu pourrais vouloir recevoir un appel. Ben c'est intéressant. Ça revient à les possibilités sont infinies.
Oui, exactement. Puis juste pour revenir un peu à l'MQTT, puis les Zigbee, souvent ce qu'on regarde, les antennes sont assez dispendieuses. Donc, on regarde souvent à 100$. Mettons, celle de SmartThings, c'est 100$ jusqu'à 200$. Mais j'ai commencé à regarder, puis il y a beaucoup de modules que tu peux acheter. Mettons, le Conbee 2, que lui est à peu près 50$. Puis lui, c'est une antenne Zigbee. Fait qu'après ça, il est capable de capter tous les signaux Zigbee. Puis le plus d'appareils Zigbee que tu as, tu commences à faire un mesh. Puis un autre affaire qui est intéressant avec Zigbee, c'est que ça ne consomme pas énormément de batterie. Donc, tu es capable d'acheter des petits sensors que tu peux mettre sur une batterie, mettons, AAA. Puis ça va durer très, très, très longtemps vu que ça ne communique pas continuellement ou ce que ça tire du jus. Puis c'est un peu ce point-là que je suis en train de jouer avec justement chez nous. C'est avec le MQTT puis le Zigbee. Puis c'est sûr que c'est un exercice dans la frustration, mais aussi tu es super content quand finalement tu étais capable de résoudre ton problème.
Oui, la satisfaction du travail accompli ou d'avoir résolu un problème. Tu parlais des thermostats snopés. On a fait un test dans les derniers jours ensemble. J'ai déconnecté mon Internet parce que j'utilise Snopé qui n'est pas Zigbee, qui était leur je pense que c'est Mi ou WeMi, ça se peut-tu?
Oui, ça se peut, ça me dit quoi?
En tout cas, c'est un protocole un peu plus propriétaire que Zigbee. Là, maintenant, ils font beaucoup de Zigbee puis du Control 4. Mais bref, j'ai leur contrôleur qui va initier la communication avec leur plateforme web. Mais en ayant intégré mon Snopé dans mon Home Assistant via mon contrôleur, j'ai débranché mon fil Internet du routeur. J'ai coupé le WAN complètement et j'étais capable d'ajuster mes thermostats en temps réel via mon téléphone cellulaire connecté sur le réseau Wi-Fi de ma maison. Même si le téléphone m'a avisé « Ah, t'as pas Internet, tu veux-tu rester connecté? » Pour le besoin de la cause, je suis resté connecté. Et c'était dans la seconde. Je voyais sur mon thermostat le chauffage, pas augmenté, là, mais je voyais comme le gradateur indiquer qu'il chauffait un petit peu ou beaucoup. Puis je l'arrêtais, puis c'était instantané. C'est ce que j'aurais pas été capable de faire si j'avais pas eu Home Assistant puis que j'ai une panne d'Internet, si on veut. J'aurais pas pu comme contrôler mes thermostats en dehors des pitons physique sur l'appareil en tant que tel, mais ça veut dire que les intégrations vont continuer à marcher même si j'ai pas d'Internet. Fait que c'est quand même une plus-value, selon moi, du moins pour mes intégrations.
Oui, effectivement. Puis tu vois, une des choses que j'ai commencé à jouer beaucoup avec, c'est un peu comme je disais plus tôt, la panoplie de différents bidules puis modules que tu peux t'acheter. Puis j'avais trouvé sur un qui venait de la Chine. Puis là, je regardais me rendre tous mes thermostats, toutes les lumières, puis ça m'aurait coûté à peu près 300$ pour faire ma maison au complet. Donc, je trouverais ça super attrayant. Puis jusqu'à temps que je commence à remarquer, il y a certaines certifications que j'ignorais un petit peu avant. Comme on parlait dans le podcast précédent, il y a le UL, il y a le ETL aussi, puis le CSA. Donc, ces produits-là que j'avais trouvés pour vraiment pas cher, mais malheureusement, il n'y a aucune certification. Donc, ça aussi, il faut faire attention parce que si jamais tu mets ça sur tes lignes filaires de maison, de courant, puis il y a un feu, puis ils sont capables de déterminer que c'est l'appareil-là, mais tu n'es plus couvert avec les assurances.
Oui, mais là, tu parles des modules DIY de Sonoff.
Entre autres, il y en a plusieurs, mais effectivement, c'est les Sonoff que je regardais qui sont très, très, très populaires. Puis le monde, il change le firmware justement pour mettre un firmware qui s'appelle Tasmota,
oui,
qui donne beaucoup de fonctionnalités. Puis justement, eux autres, ils poussent beaucoup vers le MQTT. Mais c'est ça, ma ballonne a été pétée quand j'ai remarqué ça, c'est le niveau de certification. Mais comme je dis, il y a plusieurs autres de ces appareils-là. Il y a Shelly, qui est un autre très réputé. Mais eux autres, ils commencent à avoir des modules certifiés pour l'Amérique du Nord. Tandis que souvent, les autres, on voit, sont certifiés pour l'Europe. Puis c'est là que j'ai appris à propos de la certification CE, qui est une certification que tu peux te donner toi-même. Puis en gros, ce que tu dis, c'est que tu vas suivre les normes qui sont déterminées par cet organisme-là. Tandis que ceux en Amérique du Nord, ils ont l'air d'être un petit peu plus stricts, dans le sens qu'eux autres, ils veulent avoir l'appareil, puis ils veulent relier leur propre test pour après ça les certifier. Donc, c'est juste un petit attrape pour surveiller quand on commence à regarder la domotique, parce que oui, il y a beaucoup de composants qui peuvent être très dispendieux. Puis il y en a qui peuvent être vraiment pas chers, mais ils sont pas chers parce qu'ils n'ont pas été chercher la certification. Donc, comme je dis, c'est un problème sinistre, mais ça se pourrait que ta compagnie ne t'assure pas. Mais c'était une belle aventure à date. C'est sûr que j'ai encore des mois de travail à faire pour me rendre au niveau que je souhaiterais être en bout de ligne. Mais non, c'est quoi que je recommande. Comme je dis, ma conjointe, elle trouve que je parle de rien d'autre que ça ces temps-ci. Et j'ai eu plusieurs nuits avec très peu de sommeil, justement pour jouer avec puis comprendre plus la plateforme.
C'est drôle, moi aussi, je faisais ça dans ces heures-là. Là. j'ai fait marcher mon Sinopé à 2h du matin, puis j'étais comme « Yes! »
Oui, puis il y a même tu sais, on parle souvent de pas dépendre de le cloud, mais ils ont un service qu'ils offrent, justement, c'est 5$ par mois, où ce qu'ils vont te permettre de l'accéder de l'extérieur. Donc, ce n'est pas hosté par eux autres, mais c'est eux autres qui vont aider à faire, mettons, le DNS, les certificats SSL pour que ce soit encrypté, pour 5$ par mois. Donc, c'est très abordable. Puis moi, ça me fait plaisir, même si je ne me servirais pas du côté SSL, juste pour encourager les développeurs.
Oui, au niveau du support que ça peut donner, je suis d'accord, mais parce qu'en même temps, tout le travail qu'on fait là-dedans, ça a besoin d'un certain niveau de connaissance, mais rendu là, tu es capable d'avoir ton DDNS toi-même, ton SSL Let's Encrypt toi-même qui va rouler directement dans la machine parce qu'il y a les add-ons possibles aussi.
Oui, absolument. C'est juste qu'il t'enlève un petit peu les efforts, même s'ils ne sont pas gros, mais ça t'enlève un certain niveau d'effort.
Oui, c'est intégré.
Puis il donne un mois gratuit.
OK.
Fait que si tu voulais jamais essayer ce service-là, il donne un mois gratuit. Puis après ça, comme je dis, c'est 5$ par mois.
C'est Nubikasa, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est en plein ça, exactement.
Il va falloir que tu valides pour ton URL parce qu'il est trop long.
Ouais.
On parle d'un URL hexadécimal d'à peu près 32 caractères. Point Nubi, quelque chose.
Ouais, mais je ne sais pas si tu payes. Je ne sais pas s'ils vont changer l'URL. Je ne suis pas rendu là encore.
On va le savoir dans un mois.
Ouais. Il y a des bonnes chances, parce que comme je dis, je suis très satisfait à date, puis je vois aucune raison pourquoi que j'irais vers une autre plateforme à ce moment.
Parce que parlons-en des autres plateformes. Les deux autres principaux acteurs, là, ce serait Google Assistant puis Alexa qui vont contrôler une panoplie de trucs, parce que sont là, eux autres aussi. Là, dans Google Assistant, tu rajoutes il va reconnaître tes devices. Ah, tiens, t'as un Wemo là, je te le mets dans telle pièce, puis tu contrôles par pièce, tu fais pas des scènes, mais
des regroupements.
Oui, des regroupements. Vraiment pas aussi poussé que tu vas pouvoir faire avec Home Assistant, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est possible. Mais
oui.
Ça ne fonctionnera pas si tu n'as pas d'Internet, par contre.
Oui, puis toi, pour revenir à ton point, les scènes pour Google, ils appellent ça des routines.
C'est ça, c'est routine que je cherchais.
Puis,
des skills.
Des skills avec Amazon, exactement.
Ouais. Mais tu dépends du cloud, tu es moins un peu vie privée. Orienté vie privée que Home Assistant. Home Assistant, tu vas pouvoir être propriétaire de ce que tu gères.
Puis merci beaucoup de parler de Google et Amazon parce que ça m'a fait penser justement, il y a un beau point d'intégration pour la reconnaissance vocale qui est toute locale. Donc, j'en connais une des plateformes. Je n'ai pas beaucoup joué avec. De ce que j'ai joué avec, c'est sûr qu'il y a place d'amélioration, mais c'est dur à juger avec juste 5 minutes, mais c'est Snips.
OK.
SNIPS. Puis de ce que j'ai vu quand on a joué avec dans le temps, tu crées vraiment ta propre librairie de mots.
OK.
Mais ça garde tout local.
Ouais, moi, j'aimerais ça essayer avec Mycroft, qui est un peu un penchant de Google Assistant open source, qui est hosté chez vous aussi. Ça peut rouler, ça aussi, tu peux le rouler sur un Raspberry Pi, sur une VM ou peu importe, là, mais Il y a une intégration pour Mycroft dans Home Assistant aussi, puis ça, ça va venir dans mes prochains, c'est dans mes prochains tests à faire.
Oui, puis peut-être que je vais l'intégrer dans mon Home Assistant aussi, parce que je serais bien surpris que ça n'existe pas. Mais je sais que tu parlais d'autres plateformes, mais comme on a dit, il y a SmartThings, il y a Hab, HAB, puis il y en avait un autre, je ne me souviens plus par cœur, là. Mais il y en a plusieurs. Mais effectivement, c'est Home Assistant qui a pris beaucoup de vigueur, je pense, juste à cause de la communauté.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que je pense que c'est une personne qui est en arrière de ça. En dehors de toutes le code que les gens vont développer, mais Home Assistant en tant que tel, je pense que c'est une personne.
Ce qui est quand même assez impressionnant.
Oui. Puis...
C'est OpenHab.
OpenHab, OK. Non, ouais, je ne connais pas du tout.
C'est un que je regardais là, quelques années, puis c'était beaucoup plus compliqué, justement, que Home Assistant.
Évidemment, ben, il y a des applications mobiles, iOS et Android.
Oui, puis c'est justement, ça, c'est une des façons qui peut détecter ta présence. Donc, tu peux, si tu voudrais, je sais qu'il y a des intégrations avec Google Maps, mais là, c'est un petit peu plus compliqué. Faut que tu crées un API, puis tout ça, puis je pense que c'est rendu, faut que tu payes.
Ça te prend un compte, l'API développeur pour Google.
Exactement. Puis tu as droit à 10 000, je pense, transactions. Puis après, le 10 000 unième, c'est là qu'ils vont te charger sur ta carte de crédit.
OK. Ben, il n'y a rien de gratuit, hein?
Non. Non, c'est un peu normal.
Mais bref, c'est sûr qu'on va avoir encore beaucoup de plaisir avec Home Assistant dans les semaines et les mois à venir. On va vous en reparler. C'est officiel, peut-être pas aussi en détail aujourd'hui, mais peut-être qu'on va faire des petits updates sur des trucs qu'on a appréciés ou des trucs qu'on a été déçus de ne pas avoir réussi, peut-être.
Oui, puis on va inclure des liens aussi dans les notes du podcast, justement, pour assister les gens. Pas comme si c'est difficile à trouver, mais quand même.
Regrouper de ce qu'on a parlé au moins.
Exactement.
Les gens vont avoir qu'à cliquer puis suivre. C'est super.
Fait que plus à suivre, c'est sûr et certain.
Ben, bon succès dans tes intégrations.
Merci, toi aussi. Merci. On s'en reparle, c'est
merci,
sûr.
Merci, c'est sûr qu'on s'en reparle. Puis merci d'avoir été à l'écoute. Questions, commentaires, n'hésitez pas. On va répondre à ce qu'il va y avoir. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Louis-Philippe de produire l'épisode. Fait que à une prochaine fois, mon ami.
Salut.
Salut, merci.